Le 6 février dernier, un tremblement de terre meurtrier s'abattait sur les régions de Turquie et de Syrie, frappant des populations déjà fortement éprouvées par la guerre. Alors comment ne pas penser à toutes ces familles et ces enfants innocents qui subissent de plein fouet cette catastrophe? D'où cette question qui fait écho au livre de Frédéric Lechter-Flack, professeur à Sciences Po. Pourquoi le mal frappe les gens bien? Dieu n'aurait-il pas pu l'empêcher? Comment croire encore à la présence active d'un Dieu que nous disons d'amour et tout puissant? Autant de questions que nous explorons dans cette émission avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste.
Psy et spi avec le père Jean-François Noël, dialogue RCF.
Bonjour père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour entamer ce nouveau cycle d'émissions consacré au mystère du mal, ce mal qui frappe les gens bien, le mal qui frappe les innocents. Alors comment on peut expliquer cette énigme qui jalonne notre vie?
Bah justement, expliquer l'énigme, c'est penser qu'elle peut être réduite ou traversée, voilà. Et en fait, il y a une épaisseur d'un mystère douloureux qui fait que, qui a déjà étonné toute la tradition hébraïque et puis ensuite chrétienne, c'est que, mais même si ça va à l'encontre de ce qu'on pense au fond, mais on va voir ce que c'est, le mal frappe aveuglément les gens bien et les méchants, voilà. Et c'est une question qui va parcourir douloureusement tout le XXe siècle avec les grands génocides dont on connaît l'intensité et la fureur, mais qui continue aussi à venir frapper à nos oreilles de croyants, parce que au fond, beaucoup de chrétiens ont perdu la confiance en Dieu lorsque le mal est venu frapper alors qu'ils avaient rien à se reprocher, voilà, venu frapper autant les. Mais c'est aussi un thème qui va traverser la philosophie.
Alors justement, comment la philosophie et la théologie ont cherché, ont-elles tenté de chercher à expliquer cette question?
Bon, sur le plan philosophique, je ne vais pas rentrer parce que c'est à la fois compliqué et technique. Disons que intuitivement, les croyants pensent au fond que quand on agit bien, on est protégé, voilà, et que le mal ne peut venir. Ne peut frapper que quand on est pécheur et coupable, voilà. C'est d'ailleurs, on y reviendra, le thème central du livre de Job, mais on y reviendra après.
Dans la prochaine émission.
Dans la prochaine émission. Au fond, on est par rapport au mal, on est toujours en position d'incompréhension et surtout de sidération, parce que pourquoi moi ou pourquoi elle, qui se résume par cette phrase tout à fait bête, mais qu'on entend dans le vocabulaire, populaire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Parce qu'au fond, on attend de lui justement une certaine protection par rapport à la fatalité ou par rapport au mal.
Je me comporte bien, donc il peut rien m'arriver de mal. C'est un peu cette idée.
Voilà, donc j'ai fait les choses correctement. Ça c'est. Alors on voit bien que c'est enfantin. Je peux pas attirer la colère de mes parents parce que j'ai des bonnes notes ou j'ai mis la table, etc.
C'est juste en même temps.
Et en même temps, oui. C'est pour ça que c'est à la fois complexe et c'est pour ça que moi je ne renie pas que la religion est une fonction de consolation, même si effectivement parfois ça ne marche pas. Mais c'est aussi le mystère même de la manière dont nous sommes croyants, qu'effectivement on ne sommes pas sous une super protection qui nous garantirait de rien. Les victimes de tremblements de terre dont vous faisiez mention à l'instant prouvent bien que elles n'ont pas payé à cause de leur péché. Par contre, là, c'est intéressant. Le mot est pas juste, mais on voit bien que la négligence des constructeurs, des promoteurs immobiliers, des secours qu'ont participé, ont aggravé le mal qui a été pour le coup, celle de la nature. Et puis il y a un autre élément qui vient, comme les gens ont perdu confiance en un Dieu protecteur, et pourtant à mon avis c'est une des fonctions, même s'il ne nous protège pas du mal, mais peut-être qu'il nous aide à le traverser, voilà. Enfin, je regardais l'autre jour quelques publicités qu'on avait télévision où on faisait la promotion de lieux de paix, de voilà où on peut à la fois nager, respirer, embrasser des arbres, etc. Je suis furieux, enfin je suis étonné parce que j'ai fait pas mal de voiles et je vous promets que en plein océan, comme ça m'est arrivé, la nature est complètement indifférente à votre sort et que l'océan se fout éperdument de Jean-François Noël à ce moment-là. J'ai bien cru que ma dernière heure était sonnée et que l'océan est indifférent, enfin la montagne.
Mais pas Dieu.
Et pas Dieu, voilà. Bon, alors.
Alors, je reviens justement, on a l'impression qu'il y a la théologie et la philosophie qui ont finalement se sont un peu heurtés à un mur pour expliquer cette question du mal qui frappe des innocents. C'est souvent d'ailleurs une bonne raison qui est invoquée par des personnes pour ne pas croire en Dieu. J'imagine que vous, en tant que prêtre, on a dû souvent vous la faire, mais comment on peut croire en Dieu quand on voit de telles horreurs ou de telles choses horribles qui arrivent à des personnes qui n'ont rien fait ? Alors, comment vous accueillez cette question, ces personnes qui vous disent « moi, je crois pas en Dieu » parce que s'il existait Dieu, et s'il était aussi puissant et amour qu'on le dit, il n'y aurait pas tout ça.
Bon, d'abord, ça m'est arrivé 1000 fois, quand j'étais curé de Istres, de commencer, je me rappelle, de drames qui avaient secoué la ville, et les élus étaient présents, parce qu'il y avait eu un tueur en série qui avait tué 3 personnes dans la ville, et j'étais revenu de vacances rapidement pour faire cet enterrement dramatique. Et j'avais commencé en disant je suis horrifié, je suis scandalisé, je suis j'ai rien à dire, je ne sais pas quoi vous dire, et c'est horrible, voilà, c'est la mort est toujours horrible, là elle est spécialement horrible. Et je me rappelle que je me rappelle que l'assistance des familles, 3 familles qui étaient là, et non seulement les familles mais aussi des élus, donc bon, leur position était plus formelle, disons, mais enfin bref. M'ont rappelé récemment, quand j'ai quitté la ville d'Istres, que j'avais dit ça. Parce qu'en fait, ils se sont rappelés que de ça.
Ça les a rassurés que vous disiez ça ?
Oui, parce que je ne pouvais pas me mettre du côté de l'explication ou de la justification, quelle qu'elle en soit, qu'il y avait une épaisseur dans l'horreur que la raison ne peut pas traverser. Voilà. Et que j'étais du côté de l'incompréhension et de la révolte. Voilà.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'explication intellectuelle, mais il y a à accueillir des émotions, une sidération, une forme de sidération, on pourrait dire.
Oui, alors en même temps, non, pas de sidération, parce qu'il faut que les gens puissent parler. C'est ça d'ailleurs le rituel des deuils, c'est qu'il y ait c'est-à-dire la vieille tradition d'éveillés funèbres, où les gens partagent les souvenirs du défunt, pour que le défunt ne parte pas dans le silence de la sidération, mais parte dans l'évocation de leur vie et de leur récit. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent que dans les obsèques, on fait mémoire peut-être trop des vertus, parce qu'en fait, on tente de couvrir l'horreur de la mort, et c'est tout horrible. Enfin, c'est encore plus horrible pour un enfant que pour un vieillard, mais la mort n'a pas d'excuse, et je déteste ce texte faussement attribué à Augustin qui dit que ce n'est rien, la mort n'est rien, je suis passé à côté. C'est jamais, jamais, jamais vrai. C'est-à-dire qu'on ne se remet pas de cette rencontre avec la mort. Enfin bon, ça c'est la mort. Mais le mal en tant que tel, ou l'annonce de la maladie, ou les épreuves que nous pouvons traverser, elles sont toujours disproportionnées par rapport à nos fautes et nos péchés. Bien sûr qu'on n'est pas, on est toujours coupable de telle ou telle faute. Et on cherche d'ailleurs, quand on attrape une maladie, ou quand on a été trahi, ou quand on a été abandonné, on cherche à comprendre. Bon, mais ça, on va voir que cette volonté d'explication est une tentative de sortir la tête hors de l'eau. Et en même temps, on va pas pouvoir complètement l'expliquer. Bon, mais il n'empêche que, oui, il faut sortir de la sidération par les mots et par les rituels. On n'a que ça.
Alors, justement, là, j'ai envie de poser la question à la fois aux prêtres et aux psychanalystes. Comment on intègre cette question du mal dans nos vies ? Parce que c'est un peu une blessure lancinante qui revient sans arrêt. Comment on l'intègre ? Comment on vit avec, selon vous ? Alors d'abord, la question, je la pose aux prêtres.
Bon, déjà, il faut bien comprendre que instinctivement, quand une épreuve arrive, on va chercher la cause. C'est instinctif, parce que en retrouvant le coupable, on va pouvoir peut-être davantage mieux répondre. Et le fait est que
Pour le mal qui nous arrive.
Pour le mal qu'on subit, oui.
Et le mal...
Le mal qu'on commet, ça c'est...
Ça c'est encore autre chose.
C'est encore autre chose. Mais pour le mal qu'on subit, on va chercher la cause. Alors de fait, la psy, là je réponds à la fois comme prêtre et comme psy, mais la psy a donné raison et en même temps exagéré cette idée de causalité permanente. Parce que le tremblement de terre en Turquie, certes, il y a eu défaillance des services de sécurité, de construction et tout, et tout, et tout, et tout.
Oui, mais à la base...
Mais à la base, il y a un tremblement de terre. Oui. À la base, il y a une ville qui est construite sur une faille sismique et ça, c'est... Voilà. Alors après, c'est au Japon aussi, ils sont construits sur des failles sismiques et ils ont... Mais non, ça n'a pas empêché les tsunamis. Enfin, vous voyez, on n'est jamais à l'abri, donc même techniquement ou politiquement, de protéger les gens. Ils sont toujours quand même dans une vulnérabilité, une... Alors,
est-ce que c'est quelque chose qu'on intègre avec cette phrase qu'on entend souvent, « Ah bah, c'est la vie ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas quoi en penser, parce que de fait, c'est ce que les gens...
Un peu en baissant les bras,
oui,
peut-être. Hein.
C'est ce que les gens tentent de dire...
Pour se rassurer ?
En fait, ce n'est pas la vie, c'est la fatalité, c'est le destin, c'est peut-être le... Oui, c'est une phrase à la fois fin de conversation... Elle vous satisfait ou pas ? Non.
Qu'est-ce que vous diriez, vous, justement, si vous dites « Ah bah c'est la vie », qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un ?
Non, c'est pas ça la vie.
Alors c'est quoi ?
La vie, c'est pas ça. C'est-à-dire... Alors après, il y a confusion entre la vie terrestre et la vie vivante. Bon. Et la vie vivante, c'est celle qu'on élabore à l'intérieur de soi et qui va traverser la mort physique. Il n'y a pas que la mort physique. Bien sûr que la mort physique est la plus impressionnante, mais toutes les autres formes de mort. Et rester vivant au cœur de l'épreuve, ça, c'est l'enjeu du croyant. C'est ça l'enjeu du croyant. C'est pas d'échapper au piège de la mort sous toutes ses formes, c'est de rester vivant et d'inventer une réponse vivante. En reprenant cet exemple de tremblement de terre, les gens qui se sont portés volontaires pour aller aider, déblayer les horribles, voilà, ou pour retrouver les survivants, ont inventé dans leur propre cœur une réponse au mal, en ne restant pas inactifs, par exemple.
Et Dieu dans tout ça ?
Dieu, il est dans le cœur de ceux qui ont tenté de ne pas rester sidérés et qui ont aidé les gens à sauver les autres, qui ont donné des noms aux défunts, qui ont retrouvé les corps pour pouvoir les inhumer correctement. Voilà, c'est là qu'est Dieu. Il est dans le secours inventé.
Dans cette solidarité humaine.
Cette solidarité, oui.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles, psychanalyste. Vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine, nous vous proposons d'étudier cette question du mal qui frappe les innocents en lien avec le livre de Job. Ne manquez pas notre rendez-vous de mercredi prochain à 11h.
Avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.